Ma très chère Lucie, je sais que tu as hâte de savoir tout ce qui est arrivé depuis que nous nous sommes dit au revoir sur le quai de la gare de Whitby. Eh bien, ma chère, je suis arrivée sans encombre jusqu'à Hull, et de là, j'ai pris le bateau pour Hambourg, et ensuite le train jusqu'ici. Je crois que je ne garde presque aucun souvenir des détails du voyage, mis à part que je me dirigeais vers Jonathan, et que, comme il me faudrait probablement veiller sur sa convalescence, j'avais besoin de me reposer avant autant que je le pouvais. J'ai trouvé mon cher amour, oh, affreusement maigre et pâle, et dans un grand état de faiblesse. Toute résolution semblait avoir disparu de ses chers yeux, et cette calme dignité dont je t'ai toujours dit qu'elle imprégnait son visage s'était envolée. Il n'est que l'ombre de lui-même, et ne se souvient de rien de ce qui lui est arrivé sur une longue période de temps. Du moins, c'est ce qu'il veut me faire croire, et je ne lui poserai jamais la question. Il a été victime d'un choc terrible, et je crains que cela n'affecte son pauvre cerveau s'il essayait de se le remémorer. Sœur Agatha, qui est une bonne personne et une infirmière née, m'a dit qu'il a évoqué des choses terrifiantes dans son délire lorsqu'il avait perdu la tête. Je voulais qu'elle me les rapporte, mais elle s'est contentée de se signer et m'a dit qu'elle ne les répéterait jamais, que les délires des malades étaient les secrets de Dieu et que si une infirmière était amenée à les entendre, de par son métier, elle se devait de les garder. C'est une âme bonne et douce, et le jour suivant, quand elle me vit troublée, elle revint sur le sujet, et, après avoir répété qu'elle ne pourrait jamais mentionner le contenu des délires de mon pauvre chéri, elle a ajouté « Tout ce que je peux vous en dire, ma chère, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une quelconque faute qu'il aurait commise lui-même, et que cela n'aura donc aucun impact sur vous en tant que sa future épouse. Il ne vous a pas oublié, ni vous, ni ce qu'il vous doit. Sa terreur portait sur des choses grandes et terribles qu'aucun mortel ne peut envisager. Je pense que cette brave sœur s'imaginait que je pourrais être jalouse et m'imaginait que mon pauvre chéri était tombé amoureux d'une autre femme. Quelle idée que moi, je puisse être jalouse à propos de Jonathan. Cependant, ma chère, je te confesse que j'ai ressenti un frisson de joie quand j'ai su qu'aucune autre femme n'était cause de ce mal. Je suis à présent assise à son chevet, d'où je peux voir son visage endormi. Oh, voici qu'il se réveille. Quand il s'est réveillé, il m'a demandé son manteau, et comme il voulait récupérer quelque chose dans la poche, j'ai demandé à sœur Agatha et elle m'a amené toutes ses affaires. J'ai vu que parmi elles se trouvait son cahier, et j'étais sur le point de lui demander de me laisser le regarder, car je savais que je pourrais trouver à l'intérieur un indice de ce qui avait pu causer son mal. Mais je crois qu'il a vu ce désir traverser mes yeux, car il m'a envoyé à la fenêtre, disant qu'il voulait être seul un moment. Ensuite, il m'a rappelé, et quand je suis revenue auprès de lui, il avait la main sur son cahier, et il m'a dit de manière très solennelle. Wilhelmina. Et j'ai su alors qu'il était vraiment grave, car il ne m'a jamais appelée ainsi depuis sa demande en mariage. Vous connaissez, ma chère, mes convictions sur la transparence qui doit régner entre un mari et son épouse. Il ne devrait y avoir entre eux aucun secret, aucune chose cachée. J'ai eu un traumatisme violent, et quand j'essaie de penser à ce que c'est, je me sens pris de vertige, et je ne parviens pas à savoir si c'est bien réel ou s'il s'agit du délire d'un fou. Vous savez que j'ai eu une fièvre cérébrale qui entraîne la folie. Le secret est là, et je n'ai pas envie de le percer. Je veux prendre en main ma vie, ici, avec notre mariage, car, ma chérie, nous avons décidé de nous marier aussitôt que les formalités nous le permettront. Voulez-vous, Wilhelmina, partager mon ignorance volontaire? Voici le cahier, prenez-le et gardez-le. Lisez-le si vous voulez, mais ne m'en parlez jamais, à moins que vraiment quelque devoir impérieux ne m'oblige à retourner aux heures amères qui sont consignées ici, que ce soit le produit de la raison ou de la folie, de la veille ou du songe. Il retomba, épuisé, et j'ai placé le cahier sous son oreiller avant de l'embrasser. J'ai demandé à sœur Agatha de supplier la supérieure d'autoriser notre mariage dès cet après-midi, et j'attends sa réponse. Elle est revenue et m'a dit qu'on a envoyé chercher le chapelain de l'église de la mission anglaise. Nous devons nous marier dans une heure, ou dès que Jonathan s'éveillera. Lucie, voici que le temps est arrivé et passé. Je me sens toute solennelle et pourtant très, très heureuse. Jonathan s'est éveillé après un peu plus d'une heure, et il s'assit sur son lit soutenu par des oreillers. Il articula son « je le veux » d'une voix forte et ferme. Je pouvais, quant à moi, à peine parler. Mon cœur était si débordant que même ces mots semblaient m'étrangler d'émotion. Les chères sœurs ont été très gentilles. Plaise à Dieu que je ne les oublie jamais, non plus que ces douces et graves responsabilités que j'ai acceptées. Je dois te parler de mon cadeau de mariage. Quand le chapelain et les sœurs me laissèrent avec mon mari, oh Lucie, c'est la première fois que j'écris les mots « mon mari ». Je pris le journal sous son oreiller, l'enveloppai dans du papier blanc et l'entourai d'un ruban bleu clair que je portais autour du cou, et je scellai ce paquet avec de la cire à cacheter, en utilisant mon alliance en guise de sceau. Puis je le portai à mes lèvres et le montrai à mon mari, en lui disant que je le laisserais intact, que cela serait pour toujours un signe extérieur et visible de la confiance mutuelle que nous nous portions, et que je ne l'ouvrirais jamais, à moins que ce ne fût pour son bien à lui ou pour répondre à une absolue nécessité. Alors il prit ma main dans la sienne. Et, oh Lucie, c'était la première fois qu'il tenait ainsi la main de sa femme. Et il dit que c'était la chose la plus précieuse dans tout le vaste monde, et qu'il était prêt à revivre tout son passé pour la regagner, si cela était nécessaire. Le pauvre amour voulait sans doute dire une partie de son passé. Mais sa représentation du temps est encore confuse, et je ne serais pas surprise qu'il mélange non seulement les mois, mais les années. Eh bien, ma chère, que pouvais-je dire ? Seulement que j'étais la femme la plus heureuse du monde, et que je n'avais rien à lui offrir en dehors de moi-même, de ma vie et de ma confiance, et avec cela, mon amour et mon obéissance pour tous les jours de ma vie. Et, ma chère, quand il m'embrassa et m'attira à lui avec ses pauvres mains si faibles, c'était comme un serment solennel entre nous. Chère Lucie, sais-tu pourquoi je te raconte tout ceci ? Ce n'est pas seulement parce que tout cela était très doux, mais aussi parce que tu m'as toujours été, et que tu m'es toujours, très chère. C'était un honneur d'être ton ami et ton guide lorsque tu sortais du couvent pour te préparer à la vie du monde. Je voudrais te voir maintenant, avec les yeux d'une épouse très heureuse, ce que je suis devenue en suivant la route du devoir, afin que, dans ta propre vie d'épouse, tu puisses être aussi heureuse que moi. Ma chère, qu'il plaise à Dieu Tout-Puissant que ta vie soit tout ce qu'elle promet, un long jour ensoleillé, sans vent mauvais, sans oubli du devoir, sans trahison. Je ne peux pas te souhaiter de ne jamais souffrir, car cela est impossible, mais j'espère vraiment que tu seras toujours aussi heureuse que je le suis en cet instant. Au revoir, ma chère. Je vais poster cette lettre tout de suite et peut-être t'écrire à nouveau très bientôt. Je dois arrêter, car Jonathan se réveille. Je dois m'occuper de mon mari. Ton amie de toujours, Mina Harker. Ma très chère Mina, je t'envoie des océans d'amour et des millions de baisers, et j'espère que tu seras bientôt dans ta propre maison, avec ton mari. J'aimerais que vous reveniez assez vite pour rester un moment avec nous ici. Le bonheur ragaillardirait Jonathan, comme il m'a ragaillardi moi-même. J'ai autant d'appétit qu'un cormoran. Je me sens pleine de vie et je dors bien. Tu seras heureuse de savoir que j'ai totalement abandonné mes promenades de somnambule. Je crois que je ne suis pas sortie de mon lit pendant une semaine. Je veux dire, après m'être couchée le soir. Arthur dit que je deviens grosse. Au fait, j'ai oublié de te dire qu'Arthur est ici. Nous passons notre temps à marcher, à monter à cheval ou en voiture, à tirer à l'arc, à jouer au tennis, à pêcher ensemble. Et je l'aime plus que jamais. Il prétend qu'il m'aime davantage, mais j'en doute, car il m'a dit qu'il était impossible de m'aimer plus qu'il ne le faisait alors. Mais ce sont des bêtises. Le voici qui m'appelle aussi, je te quitte. Affectueusement, Lucie. P.S. Mère t'envoie ses amitiés. Elle a l'air un peu mieux, la pauvre. P.P.S. Nous devons nous marier le 28 septembre. Journal du docteur Seward. 20 août.
Le cas de Renfield devient chaque jour plus intéressant. Il est maintenant tellement calme qu'il y a des périodes où ses obsessions cessent complètement. La première semaine après son attaque, il était perpétuellement violent. Puis, une nuit, au moment précis où la lune se levait, Il se calma et ne cessait de murmurer pour lui-même « Maintenant je peux attendre, maintenant je peux attendre ». Le gardien vint m'en avertir et je descendis donc à toute vitesse pour jeter un œil sur lui. Renfield était toujours dans la chambre capitonnée, vêtu de sa camisole de force, mais il ne me lançait plus ses regards ombrageux. Et ses yeux avaient même retrouvé quelque chose de leur ancienne douceur suppliante, je dirais même servile. Je me trouvais satisfait de ses nouvelles dispositions et demandai qu'on le libérât. Les surveillants hésitèrent, mais finalement obtempérèrent sans protester. Il était étrange de constater que le patient avait encore suffisamment de sens de l'humour pour remarquer leur méfiance. Car s'approchant de moi, il me murmura tout en leur jetant des regards à la dérobée. « Il pense que je pourrais vous blesser. M'imaginez-vous, moi, vous attaquer, vous, les idiots !» D'une certaine façon, il est frappant de constater que, dans l'esprit de ce pauvre aliéné, j'étais quelque peu dissocié des autres. Mais toutefois, je n'entrais pas dans son jeu. Devrais-je en déduire que j'ai quelque chose de commun avec lui et que nous serions en quelque sorte des partenaires? Ou attend-il de moi un avantage tellement important qu'il juge que mon bien-être lui est indispensable? J'aurai l'explication plus tard. Ce soir, en tout cas, il ne parle pas. Même si on lui offre un chaton ou même un chat adulte, il n'est pas tenté. Il répond seulement « Je ne m'intéresse pas aux chats. J'ai d'autres choses auxquelles penser maintenant. Et je peux attendre, je peux attendre. » Après un moment, je l'ai quitté. Le surveillant m'a dit qu'il était resté calme jusqu'à l'aube, mais qu'à ce moment, il avait commencé à s'agiter, pour finir par devenir violent, jusqu'à ce que la crise atteigne un paroxysme qui l'a épuisé, et qu'il sombre finalement dans une sorte de coma. Trois nuits de suite, ces événements se sont répétés, violents toute la journée, puis calmes depuis le lever de la lune jusqu'au lever du soleil. J'aimerais pouvoir trouver une explication. On dirait presque qu'il subit une influence qui va et qui vient. Quelle joyeuse pensée ! Ce soir, nous jouerons les esprits sains contre les esprits dérangés. Il s'est déjà échappé une fois sans le concours de personne. Ce soir, nous l'aiderons. Donnons-lui une chance, mais des gardiens seront prêts à le suivre si cela se révèle nécessaire.
23 août.
C'est toujours l'inattendu qui se produit. Comme Disraeli connaissait bien la vie. Notre oiseau, lorsqu'il trouva la cage ouverte, ne s'enfuit pas. Et tous nos subtils arrangements avaient été élaborés en pure perte. Mais en tout cas, il a prouvé une chose, que ses accès de calme durent un temps raisonnable. Dorénavant, nous pourrons le libérer un peu de ses liens quelques heures par jour. J'ai donné des ordres aux surveillants de nuit afin qu'on se contente de l'enfermer dans la chambre capitonnée une fois qu'il est calme et qu'on l'en sorte une heure avant l'aube. Son pauvre corps appréciera ce répit, même si son esprit n'est pas capable de s'en rendre compte. Ah ! L'inattendu à nouveau ! On m'appelle, le patient s'est échappé une fois de plus.
Un peu plus tard.
Une nouvelle aventure nocturne. Renfield a astucieusement attendu que le surveillant pénètre dans sa chambre pour son inspection. Puis il a bondi, passant devant lui, et s'est jeté dans le passage. J'ai ordonné qu'on le suive. À nouveau, il s'est rendu devant la maison inhabitée, et nous l'avons retrouvé au même endroit, appuyé contre la porte de la vieille chapelle. Quand il m'a vu, il est devenu furieux, et si les surveillants ne s'étaient pas saisis de lui immédiatement, il aurait essayé de me tuer. Tandis que nous nous saisissions de lui, il redoubla soudain d'efforts. Et il se produisit soudain une chose étrange. Tout aussi soudainement, il retrouva son calme. Instinctivement, je regardai autour de moi, mais je ne vis rien de particulier. Alors, je suivis le regard du patient qui regardait le clair de lune, mais je ne remarquai rien, sinon une grosse chauve-souris qui volait doucement vers l'ouest comme un fantôme. Habituellement, les chauves-souris volent de ci, de là, mais celle-ci semblait aller droit devant elle, comme si elle savait où elle se dirigeait ou avait quelque intention bien établie. Le patient était de plus en plus calme, et maintenant il disait « Vous n'avez pas besoin de me tenir, je me tiendrai sage. » Et nous rentrâmes sans aucune difficulté. Je trouve qu'il y a comme une menace dans ce calme. Et je ne dois pas oublier ce qui s'est passé cette nuit.
Hillingham, 24 août.
Je dois prendre exemple sur Mina et consigner ce qui arrive. Ainsi, nous pourrons avoir de longues conversations lorsque nous nous retrouverons. J'ignore quand ce jour viendra. J'aimerais qu'elle soit encore avec moi, car je me sens très malheureuse. La nuit dernière, j'ai rêvé à nouveau, comme lorsque j'étais à Whitby. C'est peut-être le changement d'air ou le retour à la maison. C'est très sombre et effrayant pour moi, car je ne me souviens de rien. Mais je suis emplie d'une crainte vague, et je me sens à nouveau faible et épuisée. Quand Arthur est venu déjeuner, il a eu une expression de douleur en me voyant. J'étais dans l'incapacité d'essayer de le réconforter. Je me demande si je pourrais dormir dans la chambre de ma mère ce soir. Je pourrais inventer une excuse et essayer.
25 août.
Encore une mauvaise nuit. Mère refuse de dormir avec moi. Elle n'a pas l'air très bien elle-même et sans doute a la peur de m'inquiéter. J'ai essayé de rester éveillée et j'y suis parvenue pendant un moment. Mais lorsque la pendule a sonné minuit, cela m'a réveillée d'un somme, donc j'en conclus que je m'étais assoupie. Il y avait un grattement ou un bruissement d'ailes à la fenêtre, mais cela ne me dérangeait pas, et comme je ne me souviens de rien d'autre, je suppose que j'ai dû me rendormir. Encore des cauchemars. J'aimerais pouvoir me les rappeler. Ce matin, je suis affreusement fatiguée. Mon visage est pâle à faire peur, et ma gorge me fait mal. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas au niveau de mes poumons, car j'ai sans cesse l'impression de manquer d'air. J'essaierai de me reprendre pour l'arrivée d'Arthur, ou bien il aura trop de peine en me voyant dans cet état.
Lettre d'Arthur Holmwood au docteur Seward, Albemarle Hotel, 31 août.
Mon cher Jack, je voudrais que vous m'accordiez une faveur. Lucie est malade, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de maladie précise, mais elle a une mine affreuse, et cela empire de jour en jour. Je lui ai demandé s'il y avait une raison particulière. Je n'ai pas demandé à sa mère, car je ne veux pas que la pauvre dame se fasse du souci pour sa fille, dans son présent état de santé. Cela lui serait fatal. Mrs. Westenra m'a confié que son propre sort était scellé, maladie du cœur, mais la pauvre Lucie ne le sait pas encore. Je suis certain qu'il y a quelque chose qui pèse sur l'esprit de ma petite chérie. Je suis très inquiet chaque fois que je pense à elle, et la regarder me cause une réelle souffrance. Je lui ai dit que je vous demanderais de venir la voir. Elle a commencé par refuser. Je sais bien pourquoi, mon vieux. Mais elle a fini par accepter. Ce sera une tâche bien difficile pour vous, je le sais bien, mon vieil ami. Mais c'est pour son bien, et je ne dois pas hésiter à vous le demander, ni vous à agir. Venez déjeuner demain à Hillingham à 14h, afin de ne pas éveiller la suspicion de Mrs. Westenra. Et après le repas, Lucie se débrouillera pour rester seule avec vous. Je viendrai pour le thé, et nous repartirons ensemble. Je suis mort d'inquiétude et je veux pouvoir vous consulter en tête à tête dès que possible, aussitôt que vous l'aurez vu. Ne me faites pas faux bon. Arthur.
Télégramme d'Arthur Holmwood à Seward, 1er septembre.
Suis appelé au chevet de père. Va plus mal. Vous écris. Écrivez rapport complet ce soir à Ring. Télégraphiez si nécessaire.
Lettre du docteur Seward à Arthur Holmwood. 2 septembre.
Mon cher vieux camarade, concernant la santé de Miss Westenra, je m'empresse de vous assurer qu'il n'y a aucune perturbation fonctionnelle ou maladie à ma connaissance. Mais en même temps, je suis très préoccupé de son apparence. Elle est tout à fait différente de ce qu'elle était la dernière fois que je l'ai vue. Bien sûr, vous devez garder à l'esprit que je n'ai pas pu l'examiner aussi attentivement que je l'aurais souhaité. Notre amitié, à vrai dire, est un petit obstacle que même la science médicale ne saurait franchir. Mais je ferai mieux de vous raconter exactement ce qui s'est passé et de vous laisser en tirer, dans la mesure du possible, vos propres conclusions. Alors seulement, je vous dirai ce que j'ai fait et ce que je me propose de faire. J'ai trouvé Miss Westenra d'humeur plutôt joyeuse. Sa mère était présente et en quelques instants, j'ai compris que Lucie faisait tout ce qu'elle pouvait pour la tromper et ne pas l'inquiéter. Je suis certain qu'elle devine, même si on ne lui en a pas parlé, à quel point il faut être prudent. Nous déjeunâmes donc tous les trois, et comme nous faisions tout ce que nous pouvions pour nous montrer gais, nous eûmes en quelque sorte la récompense de nos efforts, et passâmes un très bon moment ensemble. Alors Mrs. Westenra alla s'allonger, et Lucie resta avec moi. Nous nous rendîmes dans son boudoir, et elle continuait à se montrer enjouée, car les serviteurs allaient et venaient autour de nous. Mais dès que la porte se fut refermée, elle jeta le masque. Elle s'effondra dans un fauteuil en poussant un grand soupir, et se couvrit les yeux de la main. Quand je vis que sa bonne humeur s'était envolée, j'en profitai pour commencer mon examen. Elle me dit avec beaucoup de douceur, « Si vous saviez comme je déteste parler de moi !» Je lui rappelai que les confidences faites à un médecin étaient sacrées, mais je lui dis aussi que vous étiez terriblement inquiet à son sujet. Elle comprit immédiatement ce que j'entendais par là, et elle régla la question en un mot, « Dites ce que vous voudrez à Arthur. Je ne me soucie pas de moi, mais seulement de lui. » J'avais donc le champ libre. Je pouvais facilement me rendre compte qu'elle était blême, mais je ne percevais aucun des signes habituels de l'anémie. Par chance, je fus pourtant en mesure d'analyser son sang, car en ouvrant une fenêtre un peu dure et qui céda brusquement, elle se coupa légèrement avec du verre brisé. Ce n'était rien, mais c'était pour moi une trop belle occasion, et je récupérai quelques gouttes de sang que j'ai analysées. Le résultat de cette analyse est plutôt satisfaisant et révèle même une santé vigoureuse. Par ailleurs, du point de vue physique, je n'ai rien découvert d'inquiétant, mais comme il y a forcément une cause, j'en suis arrivé à la conclusion que celle-ci était d'ordre mental. Elle se plaint d'une respiration parfois difficile, d'un sommeil lourd, léthargique, avec des rêves qui la terrifient, mais dont elle ne garde aucun souvenir. Elle dit qu'enfant, elle était sujette à des accès de somnambulisme, et que lorsqu'elle est arrivée à Whitby, cette habitude s'est manifestée à nouveau. Une fois, elle est sortie dans la nuit et s'est rendue à Eastcliff, où Miss Murray l'a retrouvée, mais elle m'assure que depuis, cela ne s'est jamais reproduit. Mais j'en doute, et j'ai donc fait ce qui me semblait le plus indiqué. J'ai écrit à mon vieil ami et maître, le professeur Van Helsing d'Amsterdam, qui en sait plus sur les maladies inconnues que qui que ce soit au monde. Je lui ai demandé de venir, et comme vous m'avez dit que tous les frais seraient à votre charge, je lui ai indiqué qui vous êtes et quelles sont vos relations avec Miss Westenra. Ceci, mon cher ami, seulement pour me conformer à vos souhaits, car je ne serais que trop fier et heureux de pouvoir faire quelque chose pour elle. Van Helsing, je le sais, fera tout ce qu'il pourra pour moi, ceci pour des raisons personnelles, si bien que, peu importe à quel titre il viendra, nous devrons accepter ses décisions. Il peut sembler autoritaire, mais cela vient du fait qu'il sait mieux que personne de quoi il parle. C'est un philosophe et un métaphysicien, et l'un des scientifiques les plus en avance de son temps, et il a, je crois, un esprit très ouvert. Ses qualités, alliées à des nerfs d'acier, à un tempérament indomptable, à un parfait contrôle de soi, à des vertus de tolérance, et à un cœur si droit qu'il n'en existe pas de meilleur dans une poitrine humaine, voilà tout ce qu'il met au service du noble travail qu'il accomplit pour l'humanité. Travail tant théorique que pratique et empreint d'une compassion universelle. Je lui ai demandé de venir dès que possible. Je reverrai Miss Westenra demain. Nous nous verrons à l'extérieur, afin de ne pas alarmer Mrs. Westenra par des visites trop rapprochées. Fidèlement vôtre, John Seward.
Lettre d'Abraham Van Helsing, docteur en médecine, docteur en philosophie, docteur en littérature, etc., etc., au docteur Seward. 2 septembre.
Mon cher ami, je viens de recevoir votre lettre et je viens à vous. Par chance, je puis partir immédiatement, sans nuire à ceux qui m'ont fait confiance. Si la fortune était contraire, alors tant pis pour ceux qui m'auraient fait confiance, car même alors, je me devrais d'accourir auprès de vous pour secourir ceux qui vous sont chers. Dites à votre ami que ce jour où vous vous êtes hâté d'aspirer de ma blessure le poison qui menaçait de la gangréner, après que notre autre ami, trop nerveux, eut laissé filer son couteau, vous lui avez donné le droit, ainsi qu'à vous-même, de recourir à mon aide, plus que n'aurait pu le faire sa grande fortune. Mais cela ne fait qu'ajouter à mon plaisir de rendre service à votre ami. C'est en réalité pour vous que je viens. Réservez une chambre pour moi au Great Eastern Hotel, afin que je sois proche de vous, et merci de faire en sorte que nous puissions voir la jeune lady demain, pas trop tard. Il se peut en effet que je doive rentrer ici le soir même. Mais si c'est nécessaire, je pourrai revenir dans 3 jours, et je pourrai rester plus longtemps alors. En attendant, au revoir, mon ami John. Van Helsing.
Lettre du docteur Seward à l'honorable Arthur Holmwood. 3 septembre.
Mon cher Art, Van Helsing est venu et reparti. Il m'a accompagné à Hillingham. La mère de Lucie déjeunant dehors, nous étions seuls avec la jeune fille. Van Helsing procéda à un examen très minutieux de la patiente. Il m'en fera le compte-rendu et je vous en tiendrai informé. Bien entendu, je n'étais pas présent tout au long de l'examen. Je crains qu'il ne soit très inquiet, mais il dit qu'il doit encore réfléchir. Quand je lui ai parlé de notre amitié et lui ai dit combien vous m'honoriez de votre confiance en cette affaire, il me dit « Vous devez lui dire tout ce que vous pensez, et même tout ce que je pense moi, si vous pouvez le deviner. » Non, je ne plaisante pas. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une question de vie ou de mort, et peut-être plus encore. Je lui demandai ce qu'il entendait par là. Il semblait vraiment sérieux. C'était au moment où nous venions de regagner la ville, et il prenait une tasse de thé avant d'entamer son voyage de retour vers Amsterdam. Il ne me donna aucun autre indice. « Ne soyez pas fâché contre moi, Art, car sa réticence même à nous parler nous prouve que son cerveau travaille au salut de Lucie. Il s'exprimera plus complètement lorsque le moment sera venu, soyez-en sûr. » Je lui ai dit que je me contenterais de vous rédiger un compte-rendu de notre visite, comme si j'écrivais un article spécial pour le Daily Telegraph. Il ne semblait pas m'écouter et me fit seulement remarquer que la ville n'était plus autant chargée de suie qu'à l'époque où il y étudiait. Je vais probablement recevoir son compte-rendu demain. Dans tous les cas, je recevrai une lettre. Maintenant, parlons de cette visite. Lucie était plus gaie que lorsque je l'ai rencontrée l'autre jour, et elle avait l'air d'aller beaucoup mieux. Elle avait perdu cette mine affreuse qui vous avait tellement alarmé, et sa respiration était normale. Elle fut, comme toujours, très aimable envers le professeur, et fit tout pour le mettre à l'aise, même si je pouvais me rendre compte des efforts que la pauvre jeune fille devait faire en ce sens. Je crois que Van Helsing le remarqua également, car je vis qu'il lui jetait ces regards furtifs que je connais si bien par-dessous ses sourcils broussailleux. Il commença par parler de choses et d'autres, de tout sauf de nous-mêmes et des maladies, et avec une telle gentillesse que je vis bientôt la bonne humeur factice de Lucie se changer en une gaieté réelle. Alors, sans changer de ton, il amena la conversation sur le sujet de sa visite, et il dit d'un ton charmeur « Ma chère jeune demoiselle, je suis heureux de voir que vous êtes tant aimée. » C'est beaucoup, ma chère, même s'il y a des choses que je ne puis voir. Ils m'ont dit que votre moral était bien bas et que vous étiez affreusement pâle. Je leur ai répondu « Pfff !» Et il claqua des doigts à mon attention, puis il poursuivit. « Mais vous et moi allons leur montrer à quel point ils se trompent. Comment pourrait-il, lui ?» Et il me montra du doigt avec le même regard et les mêmes gestes que jadis dans la salle de classe, en une occasion que même maintenant il ne cesse de me rappeler. Comment pourrait-il savoir quoi que ce soit sur les jeunes filles? Il doit s'occuper de ces dames, leur ramener la joie de vivre et les rendre à ceux qui les aiment. C'est beaucoup de travail, mais nous autres médecins trouvons notre propre récompense dans le fait de leur rendre leur bonheur perdu. Mais les jeunes filles... Il n'a ni femme ni fille. Et les jeunes ne se confient pas aux jeunes, mais plutôt aux vieux comme moi, qui avons connu tant de soucis et en avons compris les causes. Alors, ma chère, nous allons l'envoyer fumer sa cigarette dans le jardin, et vous et moi aurons une petite conversation. Je compris l'allusion et allai donc me promener dans le jardin. Peu après, le professeur apparut à la fenêtre et me rappela. D'un air grave, il me dit « J'ai procédé à un examen minutieux, mais je n'ai pu trouver aucune cause fonctionnelle à son état. Comme vous, je pense qu'il y a eu une importante perte de sang, sans aucun doute, mais ce n'est plus le cas maintenant. Elle ne présente toutefois aucun symptôme d'anémie. Je lui ai demandé de m'envoyer sa servante afin de lui poser une ou deux questions, pour être certain de ne manquer aucune information. » Je sais bien ce qu'elle va me dire. Et pourtant, il y a une cause, il y a toujours une cause pour tout. Je dois rentrer chez moi et réfléchir. Vous m'enverrez chaque jour un télégramme, et si c'est nécessaire, je reviendrai. La maladie, car il y a forcément une maladie, m'intéresse, et cette chère enfant m'intéresse également. Je suis sous son charme. Et je reviendrai pour elle, si ce n'est pour vous, même si elle n'était pas malade. Je vous assure qu'il n'a pas ajouté un mot de plus, même lorsque nous étions seuls. Et maintenant, Art, vous en savez autant que moi. Je vais rester vigilant. J'espère que votre pauvre père va mieux. Cela doit être terrible pour vous, mon cher vieux camarade. De vous retrouver dans une telle position entre deux personnes aussi chères à votre cœur. Je sais quelle idée vous vous faites de votre devoir envers votre père, et vous avez raison de vous y tenir. Mais si c'est nécessaire, je vous enverrai un mot pour vous rappeler auprès de Lucie. Ne vous faites donc pas trop de soucis tant que vous n'aurez pas de nouvelles de moi.
Journal du docteur Seward, 4 septembre.
Le patient zoophage continue de focaliser notre attention. Il n'a eu qu'une seule crise qui s'est produite hier à une heure inhabituelle. Juste avant que ne sonne midi, il a commencé à s'agiter. Le surveillant a reconnu les symptômes et immédiatement il est allé quérir de l'aide. Heureusement, les hommes firent diligence et arrivèrent juste à temps. Au moment précis où sonnaient les 12 coups de midi, il devint si violent qu'il leur fallut toute leur force pour le maintenir. En 5 minutes, toutefois, il devint de plus en plus calme pour finalement sombrer dans une sorte d'état mélancolique où il est resté jusqu'à maintenant. Le surveillant m'a raconté qu'au paroxysme de la crise, ses hurlements étaient véritablement épouvantables. Je fus très occupé à prendre soin des autres patients qui étaient effrayés. Et en vérité, je les comprends sans peine. J'ai été moi-même dérangé par les cris, alors que je me trouvais très éloigné de là. L'heure du dîner est maintenant passée, et mon patient reste assis dans un coin à ruminer, lançant des regards ternes, maussades et affligés, et il semble plutôt diriger ses regards dans une certaine direction, plutôt que regarder vraiment quelque chose. Je n'y comprends rien.
Plus tard.
Nouveau changement chez mon patient. À 5 heures, je suis allé lui rendre visite, et les trouver plus épanouis et satisfaits que jamais. Il attrapait des mouches et les dévorait, et tenait le compte de ses captures en laissant des marques avec ses ongles sur le capitonnage de la porte. Quand il me vit, il vint à ma rencontre et s'excusa de son mauvais comportement. Puis il me demanda d'un ton humble et servile s'il pouvait retourner dans sa chambre et récupérer son carnet de notes. Je décidai de lui faire plaisir, il a donc regagné sa chambre et a disposé le sucre de son thé sur le rebord de la fenêtre ouverte, et a déjà fait une bonne récolte de mouches. Il ne les mange plus, il les met dans une boîte comme précédemment, et il est déjà en train d'inspecter les coins de sa chambre à la recherche d'une araignée. J'ai essayé de l'amener à parler de ses derniers jours, car n'importe quel indice sur ses pensées profondes me serait d'une aide précieuse, mais il n'a pas réagi. Pendant un moment, il eut l'air triste et me dit d'une voix lointaine, comme se parlant plutôt à lui-même. « C'est terminé, c'est terminé. Il m'a abandonné. Je n'ai plus rien à espérer, à moins d'agir par moi-même. » Puis, se tournant soudain vers moi d'un air résolu, il dit « Docteur, voulez-vous être bon pour moi et me permettre d'avoir un peu plus de sucre? Cela me ferait le plus grand bien. » « Et les mouches ?» répondis-je. « Oui, oui, les mouches aiment cela aussi, et moi j'aime les mouches, donc j'aime le sucre. » Et il y a des ignorants pour dire que les fous ne savent pas argumenter. Je lui procurai donc une double ration, et lorsque je le quittai, il était, je crois, le plus heureux des hommes. J'aimerais pouvoir percer le mystère de son esprit.
Minuit.
Encore un changement. J'étais sorti pour rendre visite à Miss Westenra, que j'avais trouvée en bien meilleure forme. Je venais juste de rentrer et je m'étais arrêté au portail pour contempler le coucher du soleil, lorsque je l'entendis hurler. Comme sa chambre donne de ce côté du bâtiment, je l'entendais très distinctement. Ce fut un choc pour moi de passer de la beauté brumeuse d'un coucher de soleil au-dessus de Londres, avec ses lumières éclatantes et ses ombres d'un noir d'encre, et toutes les teintes merveilleuses qui se dessinent sur les brumes et les eaux, et de me retrouver soudain face à la triste sévérité de ce froid bâtiment de pierre, avec son lot de misère humaine et seulement mon pauvre cœur pour le supporter. Je le rejoignis juste au moment où le soleil se couchait. Je pus voir depuis sa fenêtre l'orbe rouge disparaître derrière l'horizon. Il commençait déjà à se montrer de moins en moins agité, et à cet instant précis, il glissa d'entre les mains qui le retenaient et tomba comme une masse inerte sur le sol. Les capacités de récupération de ces aliénés sont telles, cependant, qu'il put se relever calmement quelques minutes plus tard. Il regarda autour de lui. Je fis signe au surveillant de ne pas se saisir de lui. J'étais impatient de voir ce qu'il allait faire. Il alla droit à la fenêtre et balaya de la main les morceaux de sucre. Puis il prit la boîte où il enfermait les mouches, l'ouvrit et la lança par la fenêtre qu'il referma ensuite. Il traversa la pièce et alla s'asseoir sur son lit. « Vous ne voulez plus capturer les mouches ?» lui demandai-je très surpris. « Non, dit-il, j'en ai assez de ces cochonneries. » Il représente sans aucun doute un très intéressant cas d'étude. j'aimerais pouvoir le comprendre ou entrevoir la cause de ses passions soudaines. Mais nous avons peut-être un indice, finalement. Peut-être pourrons-nous comprendre pourquoi ces crises ont atteint un tel paroxysme aujourd'hui, précisément à midi, puis au coucher du soleil. Se pourrait-il que le soleil ait une influence pernicieuse, qui, à certains moments, affecterait certaines natures, comme c'est le cas pour la lune? Nous verrons cela.
Télégramme du docteur Siwart, Londres, à Abraham Van Helsing, Amsterdam, 4 septembre.
Malade va beaucoup mieux aujourd'hui.
Télégramme du docteur Siwart, Londres, à Abraham Van Helsing, Amsterdam, 5 septembre.
Malade va bien mieux, bon appétit, sommeil naturel, bonne humeur, couleurs reviennent.
Télégramme du docteur Siwart, Londres, à Abraham Van Helsing, Amsterdam, 6 septembre.
Terrible aggravation, venez sur l'heure, ne perdez pas un instant. Attends de vous voir avant d'envoyer télégramme à Holmwood.